rediffusion sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Mali, la junte inflige des sanctions financières à deux chefs djihadistes et à quatre chefs de la rébellion Touareg. Nouvel enlèvement de masse au Nigeria, 32 femmes et 29 hommes ont été kidnappés dans leur village de l'état de Kaduna. Le Togo prolonge l'état d'urgence au nord. Aussi aux États-Unis, le président Biden et son prédécesseur Trump ont chacun remporté l'investiture de leur parti respectif pour la présidentielle de novembre. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Mali, la junte au pouvoir a infligé des sanctions financières aux deux principaux chefs djihadistes et à quatre chefs de la rébellion Touareg. Dili Diko.
Un arrêté du ministère malien de l'économie gèle pour 6 mois renouvelables les biens et ressources économiques d'Iyad Ag Gali à la tête du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. Quatre autres chefs rebelles Touareg, Al-Gabas Ag Intala, Bilal Ag Asherif, Farhad Ag Al-Mahmoud et Achafagi Ag Bouhada sont aussi visés. Ils sont accusés d'actes de terrorisme, financement du terrorisme, atteinte à l'intégrité du territoire ou association de malfaiteurs. Ils sont tous décrits comme de nationalité malienne et résidant habituellement au Mali, sauf Bilal Ag Asherif, malien né au Burkina Faso. Son lieu de résidence habituel n'est pas indiqué, les incidences concrètes du gel de leur avoir ne sont pas claires. Les 6 hommes figurent déjà sur une liste de personnes visées par l'ouverture d'une enquête judiciaire annoncée le 28 novembre par la justice malienne.
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé ce mardi des dizaines de personnes dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest. 32 femmes et 29 hommes ont été kidnappés. Yakuba Ouedraogo.
D'après le conseiller local Aboubakar Bouda, des hommes armés ont pris d'assaut un village du district de Kajuru et sont passés de maison en maison pour enlever des habitants, ouvrant le feu de façon sporadique. Selon la chaîne de télévision nigériane Channels TV, une intervention militaire a pu empêcher que plus de personnes ne soient enlevées. L'inspecteur général de la police nationale, Kayode Egbetokun, a promis de déployer des officiers dans tout l'État pour apaiser les craintes et renforcer la confiance des habitants de Kaduna, en particulier ceux des communautés rurales. Ces enlèvements sont survenus au moment où les forces de sécurité recherchent plus de 250 élèves kidnappés le 7 mars dans leur école, à Kuriga, dans le même État. Au Nigeria, des bandes criminelles procèdent souvent à des enlèvements de masse dans le nord-ouest. Ils ciblent les écoles, villages et autoroutes, des lieux où il leur est possible de kidnapper rapidement un grand nombre, avec pour objectif d'obtenir le versement d'une rançon.
Et justement, en évoquant ces rançons, le président Tinubu a ordonné aux forces de sécurité de ne pas payer de rançon pour la libération de plus de 250 écoliers enlevés par des hommes armés la semaine dernière. Selon des proches des victimes, les ravisseurs ont exigé le paiement d'1 milliard de naira, soit plus de 620 000 dollars pour le retour des élèves enlevés le 7 mars dans leur école du village de Kuriga. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'aide au relogement après les expulsions de milliers d'habitants et la destruction de quartiers précaires d'Abidjan. C'est l'annonce faite aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly. Au Cameroun, le gouvernement a interdit 2 partis d'opposition, l'APC et l'ATC, suite à leur activité qualifiée d'illégale. Dans un communiqué, Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, a précisé hier que ces mouvements clandestins ne peuvent exercer aucune activité politique, ajoutant être inquiet de ces pseudo-associations à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Au Rwanda, un tribunal a rejeté ce mercredi la demande de restauration des droits civiques de Victoire Ingabire, figure de l'opposition. Cette décision l'empêche de se présenter à la présidentielle du 15 juillet. L'opposante a été déchue de ses droits après sa condamnation à 15 ans de prison pour minimisation du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts. Au Gabon, 6 corps d'adolescents de 14 à 16 ans ont été repêchés depuis lundi à la plage du lycée Léomba à Libreville à la suite de noyades lors des grandes marées. Le service de météo marine déconseille fortement la fréquentation des plages ces prochains jours. L'Union européenne a annoncé l'octroi d'une aide de 70 millions d'euros destinée à la région des Grands Lacs, en particulier à la République démocratique du Congo. Près de 64 millions sont destinés à des projets humanitaires. Un montant supplémentaire de 6 millions d'euros est alloué au plan régional d'intervention en faveur des réfugiés du Burundi, au Rwanda et en Tanzanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le président Joe Biden, 81 ans, et son prédécesseur Donald Trump, 77 ans, ont remporté l'investiture de leurs partis respectifs après des primaires dans 4 États américains. Nanit Talani.
Au terme de primaires dans 4 États américains, Joe Biden et Donald Trump ont obtenu assez de délégués pour s'assurer chacun l'investiture de son parti. Le président sortant Biden a franchi le seuil des 1968 délégués en remportant les primaires démocrates de Géorgie. Donald Trump a dépassé les 1215 délégués nécessaires grâce à sa victoire dans l'État de Washington. « Je suis honoré que la large coalition de votants représentant la riche diversité du parti ait placé leur foi en moi une fois encore pour conduire le parti et le pays à un moment où la menace que constitue Trump est plus grande que jamais », a déclaré M. Biden. M. Trump, pour sa part, a affirmé « Nous devons maintenant nous remettre au travail parce que nous avons le pire président de l'histoire. Notre pays décline, nous devons gagner avec une large avance parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de pire pour faire le travail que Joe Biden », a-t-il ajouté. Les deux hommes ont ainsi donné le ton à une campagne qui sera âprement disputée et va durer presque 8 mois.
La Chambre américaine des représentants a adopté aujourd'hui une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison mère, ByteDance, et plus largement avec la Chine. C'est un développement majeur pour la plateforme, même si l'issue du vote à venir au Sénat reste incertaine. Rosine Munezero.
Le texte de loi adopté à une large majorité de 352 voix sur 432 élus n'interdit pas TikTok, a fait valoir le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui a voté en faveur de la proposition. Cette mesure exige que ByteDance, la société mère de TikTok, vende l'application dans un délai de 180 jours, faute de quoi elle sera exclue des boutiques d'applications d'Apple et de Google aux États-Unis. Cependant, le sort du projet de loi est incertain au Sénat, où des personnalités de premier plan s'opposent à une mesure aussi radicale contre une application qui a 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Le président Joe Biden a déclaré qu'en cas d'adoption au Sénat, il va promulguer ce texte. L'ancien président Donald Trump a opéré un revirement en affirmant lundi qu'il est opposé à une interdiction parce qu'elle peut renforcer Meta, le propriétaire d'Instagram et de Facebook, qu'il a qualifié d'ennemi du peuple.
Le président russe Vladimir Poutine a vanté ce mercredi l'armement nucléaire de son pays, le jugeant plus avancé que celui des États-Unis. Vladimir Poutine a ajouté que son pays est préparé à un conflit nucléaire, mais qu'il n'a jamais songé à utiliser de telles armes en Ukraine. En Haïti, des partis politiques et personnalités s'efforcent de s'accorder sur la composition d'autorités de transition après l'annonce de la démission du premier ministre contesté Ariel Henry. Le conseil transitoire doit être formé de 7 membres représentant les principales forces politiques en Haïti et le secteur privé. 2 observateurs sans droit de vote doivent venir de la société civile et de la communauté religieuse. Ce groupe doit rapidement nommer un premier ministre intérimaire selon la CARICOM. Le département d'État américain a indiqué hier que le conseil devait être formé dans les 24 à 48 heures. Le président William Ruto a déclaré aujourd'hui avoir rassuré les États-Unis sur le fait que le Kenya va diriger la mission multinationale visant à lutter contre la spirale de la violence en Haïti une fois que le conseil présidentiel sera mis en place dans ce pays des Caraïbes. Monsieur Ruto dit s'être entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au sujet de ces événements et qu'il a souligné l'engagement du Kenya à l'égard de la mission. Un deuxième navire chargé d'aide humanitaire pour Gaza est au port de Larnaca, attendant pour appareiller le bon déroulement du déchargement d'une première livraison de vivres dans le territoire palestinien, a affirmé le ministre chypriote des Affaires étrangères. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Afrique du Sud, plusieurs quartiers de Johannesburg connaissent des pénuries d'eau depuis une dizaine de jours. Un appel à manifester a été lancé hier dans la capitale financière et des manifestations contre les coupures d'électricité ont été organisées à Durban. La pénurie générale d'électricité plombe l'économie du pays avec des délestages de plus de 10 heures par jour parfois. La compagnie publique Eskom n'ayant pas renouvelé ses centrales vieillissantes. La compagnie australienne Sira Ressources a annoncé une levée de fonds de 65 millions de dollars pour la mine de graphite Balama au Mozambique et l'unité de transformation de Vidalia aux États-Unis. Le financement sera mobilisé grâce à un placement institutionnel et à une offre de droit au prorata. Australian Super s'engage à utiliser l'intégralité de sa participation au prorata, ce qui devrait augmenter sa participation de 18 à 32%. Selon un rapport du FMI sur la facilité élargie de crédit à la Guinée-Bissau, le pays a enregistré une insuffisance des recettes fiscales et un excès des dépenses pendant les élections législatives en juin dernier. Des progrès ont toutefois été réalisés dans l'avancement des réformes structurelles, malgré quelques retards. Selon le fonds, l'inflation globale en Guinée-Bissau s'est établie à 7,2% en 2023.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Balle au panier avec les nouvelles de la Basketball Africa League.
Oui, c'est jour de repos et donc pas de rencontre aujourd'hui à la Sandbets Arena de Pretoria en Afrique du Sud où se jouent les matchs de la conférence à Kalahari. Hier, un seul match s'est joué entre les Cape Town Tigers et FUS de Rabat. Après que le Dynamo Basketball Club du Burundi a annulé son deuxième match consécutif, celui-ci contre Petro de Luanda, le club burundais a été exclu après ses deux forfaits conformément au règlement. Les matchs de cette conférence à Kalahari ont débuté samedi dernier et vont se poursuivre jusqu'à ce dimanche 17 mars. Que retenir jusqu'ici? Sur place à Pretoria où il commente les rencontres, Malik Dao, ancien champion d'Afrique de basketball et actuel journaliste, fait le point.
Quand on a de l'alchimie, quand on est bien préparé, on peut être une excellente équipe. Et c'est ce que le FUS de Rabat est en train de nous montrer. Le FUS qui n'avait pas d'ailleurs été champion du Maroc depuis 19 ans et qui aujourd'hui est en train de nous montrer de bonnes choses. Cette équipe qui d'entrée bat le Petro, considéré chaque année comme un des favoris de cette compétition, qui bat le Petro sur la base de son engagement physique, de sa grosse défense et qui aujourd'hui est qualifié parce que le FUS a remporté les victoires qu'il fallait. Ensuite, la deuxième équipe, c'est le Petro qui, chaque année, est placé, mais jamais gagnant. Est-ce que cette année sera la bonne? Au vu des prestations de cette équipe angolaise, on peut avoir quelques doutes, mais on sait qu'elle sera au rendez-vous avec un peu plus de préparation. Le Dynamo, malheureusement, est déclassé à cause de ses forfaits. Et puis, les Cape Town Tigers, qui sont pour moi une grosse déception. Une grosse déception parce que je m'attendais à un peu plus de consistance, notamment au niveau de l'effectif, mais pire, au niveau du jeu, les Cape Town Tigers, il n'y a pas de circulation de balles, il n'y a pas de jeu de passe, il n'y a rien.
Malik Dao, ancien champion d'Afrique de basketball et actuel journaliste.
Ici en NBA, Oklahoma perd un joker.
Le Thunder d'Oklahoma City, en tête de la conférence Ouest, a été dominé par les Indiana Pacers 121-111. Oklahoma City a surtout perdu un précieux joker dans la course au sommet de la conférence. Avec 45 victoires et 20 défaites désormais, il possède le même bilan que le champion en titre Denver, deuxième, juste devant Minnesota, vainqueur sur le parquet des Los Angeles Clippers 118-100. Boston, meilleure équipe de la saison et en tête à l'Est, a écrasé le Utah Jazz sur son parquet 123-107 avec 38 points de son leader Jason Tatum, revenu presque à hauteur de son adversaire dans la dernière minute. Eh bien, San Antonio a manqué la victoire de peu face aux Houston Rockets 103-101.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Togo, la situation sécuritaire dans la région des savanes au nord du pays, frontalière du Burkina Faso, demeure préoccupante. Le gouvernement vient d'obtenir de l'Assemblée nationale une rallonge supplémentaire de 12 mois de l'état d'urgence dans cette zone pour lutter contre les incursions terroristes. Cette prorogation intervient alors que le pays se prépare à des élections législatives et régionales. De Lomé, notre correspondant, Kossi Wusu.
Ce sera pour la troisième fois depuis 2022 que le gouvernement sollicite le maintien de l'état d'urgence dans la région des savanes. Les attaques et les incursions terroristes persistent. Achole Akleso, le président du groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale.
Ce projet de loi soumis à notre appréciation vise à poursuivre la prise des mesures qui s'imposent en toute légalité et dans le respect des textes en vigueur dans notre pays en vue de donner tous les moyens nécessaires au gouvernement pour poursuivre la lutte contre la menace et organiser une protection plus efficace de nos populations.
Une protection des populations est nécessaire, d'autant que les élections législatives et régionales sont annoncées pour se tenir dans quelques semaines. Gabi Kwewe, député de l'opposition, s'inquiète de la situation sécuritaire dans la zone.
Ce qui me donne un peu la fièvre, c'est que on apprend des turbulences un peu partout dans les localités de la savane. Ça veut dire que les terroristes peut-être esquivent, n'est-ce pas, la présence des forces de l'ordre et au cours des élections. Comment est-ce que l'État peut s'arranger, n'est-ce pas, pour attaquer?
Au gouvernement, on se veut rassurant. Ce sont des dispositions prises pour une meilleure sécurisation des élections et une protection des populations dans la région des savanes. Colonel Odabalo Awate, le ministre de l'administration territoriale.
Alors que la situation demeure préoccupante au regard de la persistance de nouvelles tentatives et surtout au moment où le Togo se prépare pour les élections législatives et régionales, je voudrais vous assurer que, comme à son habitude, le gouvernement utilisera à bon escient cet outil juridique pour renforcer et garantir un climat sécuritaire sain, favorable sur toute l'étendue du territoire pour la tenue d'une élection apaisée et sécurisée pour tous.
Komi Agbanou, de l'Union des forces pour le changement, appelle à une union sacrée de tous les Togolais face aux terroristes.
Face à un combat asymétrique où l'ennemi peut frapper de façon imprévisible, il est dans notre intérêt à tous de soutenir le gouvernement dans cette lutte afin de lui permettre de poursuivre le travail de protection de la population civile et l'intégrité de notre territoire dans cette période où il y aura une consultation populaire.
Outre les forces militaires de l'opération Koundouaré déployées dans la région des savanes pour faire face aux terroristes, 12 000 policiers et gendarmes sont prévus pour sécuriser le processus électoral qui doit aboutir au vote du 20 avril prochain. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM. Au Mali, en ce début de Ramadan, la glace est devenue une denrée de première nécessité à cause de sa rareté. Après une journée sans boire, sous une chaleur accablante, les fidèles musulmans aiment savourer de l'eau fraîche après la rupture du jeûne. Mais faute d'électricité, le prix de la glace a connu une hausse vertigineuse, suscitant de nombreuses réactions dans les grines et les familles. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Au moment de rompre le jeûne, au milieu des plats succulents, l'eau glacée tient une place de choix dans les ménages maliens. C'est donc naturellement avec beaucoup de frustration que Aminata Diop dénonce les difficultés à se procurer de la glace et aussi son prix qui a augmenté en l'espace de 72 heures.
Vraiment, la glace est trop chère à Bamako. C'est cher. Souvent même, on ne voit même pas de glace. Il y a des gens qui vendent à 100 francs, d'autres 150, d'autres même à 250 ou 300. Donc c'est très cher. Souvent, on coupe notre jeun, on n'arrive même pas à boire de l'eau fraîche. Et ça, c'est trop décevant.
Si lui ne fait pas recours à l'achat de glace pendant ce mois de Ramadan, l'ancien ministre et député, l'ancien Ibala Keïta, reconnaît cependant que cette situation de manque d'électricité prive de boissons fraîches indispensables au moment de rompre le jeûne.
Il y a un grand déficit d'électricité au niveau pratiquement de toutes les villes, même quelquefois dans les petites, petites villes. Je crois que tout ça, c'est lié à l'électricité. Bon, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont utilisés et les gens, même en brousse aujourd'hui, ne veulent pas se passer de la glace. Ce qui fait qu'il y a des enchères et qui font que, voilà quoi, il y a une tollée qui s'est levée.
Vendeuse de glace à Bakoudji Koroni, Maïmouna Traoré, qui a augmenté de 100% le prix de ses glaces, donne des raisons.
On vend les glaces à 100 francs parce que nos congélateurs marchent avec des groupes électrogènes. Il faut du carburant, ça consomme beaucoup même. Voilà. On fait le commerce pour un gain. C'est pour cela que nous, on vend nos glaces à 100 francs. Sinon, il y a certaines vendeuses qui vendent leurs glaces à 200, 300.
Dans un communiqué publié ce mercredi, le Front populaire contre la vie chère, présidé par la journaliste Mariam Koné, appelle à un élan de solidarité en cette période de vache maigre pour les Maliens. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Bénin, de plus en plus de femmes s'investissent dans les métiers autrefois chasse-gardés des hommes. C'est le cas des femmes, qu'elles soient rurales ou non, qui excellent dans le domaine des BTP, plus précisément dans l'installation des panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique ou professionnel. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Construire un monde dans lequel les femmes sont appelées à exercer n'importe quel métier, c'est le combat de plusieurs organisations non gouvernementales qui se sont données pour mission de former les femmes à prendre leur destin en main. Joséphine Le Juc par le montage de panneaux solaires photovoltaïques.
Moi, ce qui m'a plus motivée, dans la zone rurale, nous avons beaucoup de personnes, pratiquement les étudiants, les élèves qui sont en difficulté concernant l'électricité, ne vont pas à l'école. Quand ils reviennent à la maison, ils n'ont pas l'électricité pour pouvoir bien apprendre les leçons.
Elles sont nombreuses à se lancer dans les travaux de construction et n'ont pas peur de se retrouver en hauteur, de gérer des chantiers avec leur lot d'exigences et de sacrifices. Pour grâce, les femmes doivent envahir tous les secteurs et démontrer ce dont elles sont capables.
Il n'y a pas assez de femmes parmi ces hommes. Or, en tant que femmes, nous pouvions aussi participer à cette activité qui va nous permettre aussi d'intervenir là où les hommes nous croient incapables d'agir.
Aujourd'hui, sur les chantiers de construction, les femmes arrivent à se faufiler, à se démarquer par leurs compétences. C'est le cas de Marie, souvent sollicitée depuis qu'elle a terminé sa formation en BTP.
Nous voyons aujourd'hui que la plupart des femmes ne s'intéressent pas beaucoup à la formation où s'y trouvent les hommes. Pratiquement la formation de technique, par exemple, annonce dans les côtés de bâtiments, nous avons peu de femmes. Or, c'est grâce à nous, c'est une chance à nous, femmes, de s'exercer à face de s'exercer quoi, dans ce métier pour avoir une grande opportunité demain.
Jean-Pierre Durand, qui est un formateur, explique que depuis qu'il est dans le métier, les femmes ont su démontrer leur savoir-faire.
J'estime que les hommes comme les femmes peuvent faire ce travail-là exactement pareil. C'est affaire de compétences et pas de force physique. Donc après, évidemment ici, c'est peut-être un peu, mais chez nous, c'est pas forcément encore rentré dans les mœurs. Hein. Le fait que les femmes soient dans les métiers du bâtiment, ici c'est pareil. Mais encore une fois, bon, avec un peu de tact, on va dire, et puis de volonté, on a des filles qui sont très volontaires par rapport à ça, au même titre que les garçons.
En milieu rural, ce sont les femmes transformatrices de produits agricoles qui sont formées au montage de panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique et professionnel. Christelle Adé-Dumont est la présidente de l'association béninoise pour l'éveil et le développement.
Nous avons électrifié 5 centres de transformation agroalimentaire, un local de décortiqueuse de riz, un local de transformation de beurre de karité, un local de transformation de Fonio. Et enfin, à Manta, où nous avons électrifié un internat de jeunes filles.
Comme l'indépendance énergétique tant annoncée n'est pas encore une réalité, savoir que les femmes dans les zones rurales peuvent prendre leur destin en main en matière d'électrification est une bonne chose. De plus en plus de voix appellent à multiplier ce type de formation à l'endroit des femmes pour leur autonomisation. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Tchad se dirige vers une élection présidentielle censée mettre fin à une transition de 3 ans. Fait marquant, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre Succès Masra sont candidats à ce scrutin qu'une partie de l'opposition considère déjà comme gagné d'avance par le chef de la junte. Comment interpréter les candidatures des deux signataires de l'accord de réconciliation? Comment assurer la transparence du processus électoral au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
La Russie organise une élection présidentielle du 15 au 17 mars. Plus de 112 millions de personnes sont appelées aux urnes. Près de 2 millions de personnes à l'étranger peuvent également participer. Le vote aura également lieu dans les parties de l'Ukraine contrôlées par les forces russes et soumises à la législation russe. Mais qui est en lice et comment va se dérouler le scrutin ? Alexandrine Holonion a joint en Sibérie orientale le responsable Afrique de l'Ouest au sein d'Internet sans frontières et observateur de ce scrutin, Kemal Afanian.
Dans le cadre donc des scrutins électoraux qui sont prévus pour les 15, 16 et 17 mars 2024, on retrouve quatre candidats. Le premier, bien entendu, c'est le président sortant qui se présente comme candidat indépendant cette année, comme ce fut le cas en 2004 et en 2018, en la personne de Vladimir Poutine. Donc en dehors de lui, donc on retrouve trois candidats donc issus de partis qui sont directement représentés à la Douma, donc la chambre basse du Parlement russe. Donc il s'agit de Leonid Slutsky du Parti libéral-démocrate de Russie. On a aussi Nikolai Kharitonov du Parti communiste et également Vladislav Davankov du Parti Nouvelle Personne. Les élections seront organisées suivant différents modèles. Donc il y aura le vote électronique, par exemple, le vote par correspondance, le vote également à domicile et aussi le vote consécutif, comme je le disais, donc qui avait été expérimenté par le passé déjà lors de la crise Covid et donc qui sera de nouveau mis en pratique.
Avec la mort de Navalny et le conflit en Ukraine, quels sont les enjeux de ce scrutin en Russie?
Au-delà du fait que ces élections interviennent après la mort de Navalny, donc sa veuve en fait, Yulia Navalnaya, donc s'est récemment prononcée justement et elle demandait donc aux sympathisants de manifester de façon pacifique le 17 mars dans les urnes, écrire le nom par exemple de Navalny sur les bulletins de vote ou bien voter blanc par exemple pour marquer leur suffrage. L'opération spéciale en Ukraine, c'est aussi un des enjeux donc que recouvre cette élection parce que les Russes seront appelés à se prononcer par rapport à ce conflit. Donc c'est un des enjeux également qui sera apprécié donc à travers les urnes. Il y a eu par exemple quelques mouvement embryonnaire de contestation de femmes de soldats ou de mères de soldats qui sont venus un peu comme de petits éclats donc marquer un peu le tempo durant cette campagne.
Et quels sont vos défis en tant qu'observateur de ce scrutin?
Donc en tant qu'observateur de courte durée, vous n'êtes ni un agent de police ni un membre de la commission électorale, donc votre travail se limite à observer de façon neutre en fait les interactions, les événements. De façon globale, il s'agit d'une observation qui doit être neutre en fait, en fin de compte.
Kemal Afanian, responsable Afrique de l'Ouest au sein d'Internet sans frontières et observateur de la présidentielle russe. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.